Bienvenue à l'épisode 24 de French Connection. Cette semaine, je suis avec Vincent.
Salut!
Et seulement avec Vincent, fait que c'est un petit duo. On va commencer par les chemins blog, puis on va relater les événements qui sont dans la périphérie de Québec. Le Hackfest va organiser le Québec Sec le 25 janvier prochain pour expliquer comment monter un laboratoire pour faire des tests à la maison. C'est super intéressant. La SIC, prochaine conférence le 8 février, justement avec Vincent. Sur les hauts privilèges.
Oui, pas nécessairement. Les hauts privilèges, on en discute, mais c'est surtout sur la protection des informations stratégiques. Je voulais pas dire confidentielle pour la conférence. Je voulais simplement dire stratégique parce qu'il n'y a pas que l'information confidentielle qui est importante à protéger. Mais l'information stratégique, celle qui vous sert, celle que vous utilisez et que vous transformez pour faire de l'argent, pour rendre des services, c'est important de la connaître et de la protéger. C'est de ça qu'on va discuter.
Super. Et le 24 janvier, prochaine activité d'ISACA Québec sur les femmes en gouvernance, audit, sécurité et risque de pays. Un élément très important à mettre de l'avant parce que je crois que c'est pas suffisamment mis de l'avant. Maintenant, commençons avec nos sujets. On fait un retour avec Spectre Meltdown puisque ça continue à alimenter l'actualité.
Oui, en fait, j'ai trois petits sujets sur Spectre Meltdown. Le premier, comme je disais, il y a deux semaines, un petit retour. Écoutez, je suis tombé sur un texte fort intéressant. C'est l'équivalent d'un roman savant. C'est un peu avant la divulgation d'Intel. On mentionnait qu'il y a des groupes qui avaient déjà avisé Intel, justement, des failles de sécurité. Ceux dont je veux vous parler, c'est du dernier groupe qui a avisé Intel au mois de décembre passé. Il s'agit c'est un fameux dimanche, un lendemain de brosse de ce que je peux comprendre, de trois Autrichiens de la ville de Graz qui se sont mis au défi de produire un laboratoire et puis de faire toutes sortes de tests et d'expériences. Et puis, ils sont deux travaillaient ensemble, un travaillait tout seul, et puis ils faisaient ça chacun de leur côté. Ça a donné deux équipes, une équipe de deux, une équipe de un. Et puis, il y a une des deux équipes, en moins de 24 heures, a appelé l'autre. Et puis, ils ont refait une preuve de concept. Ils ont trouvé justement le problème qui résidait dans les processeurs Intel dans ce cas-ci. Avec quelques manipulations, ils ont été en mesure de reproduire en fait le problème qu'on connaît, qu'on nomme maintenant Spectre et Meltdown. Ils ont réussi à accéder à des zones de mémoire protégées, normalement utilisées par des instructions du processeur Intel. Bon, on va dire Intel dans ce cas-ci parce que c'est ce qu'ils avaient entre les mains. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont préparé un white paper et puis ils ont avisé Intel pour s'assurer justement que Intel reproduise le problème de la bonne façon en laboratoire. Ça a pris quelques jours avant qu'Intel leur revienne, puis pas nécessairement avec des remerciements, pas avec des insultes non plus, là, je vous rassure. Intel les a simplement avisés qu'ils étaient au courant depuis, si je me trompe pas, le mois de juin. Et ils étaient la quatrième équipe sur la planète, en fait, dans notre univers connu, qui les avisait justement de la problématique. Alors, ils étaient bien au courant de la preuve de concept du fonctionnement. Alors, beau petit roman savon à propos de Meltdown dans toute cette mêlée.
Non, c'est fascinant, toute cette épopée-là, parce que, entre autres, tout le monde qui sont fâchés parce que toutes les grandes compagnies étaient courantes au moins depuis juin dernier. C'est pas avant, parce que certains papiers qui parlent d'avril 2017, dans lesquels les compagnies étaient déjà au courant. Et ensuite, il a commencé à y avoir des personnes qui ont diffusé des papiers académiques qui ont sorti, je pense, en 95, qui parlaient déjà des problèmes potentiels de ce modèle, finalement, qui donne une super performance à des CPU, finalement, qui est brisé.
Oui, tout à fait, tout à fait. Puis j'aimerais enchaîner. Si je ne me trompe pas, pour pouvoir bâtir un système d'exploitation qui fonctionne avec un chip Intel, AMD, peu importe lequel, il doit y avoir un partage d'informations, par exemple, entre Intel et Microsoft pour Windows, Linux, Unix, CVC et j'en passe.
Oh oui.
Je me questionne, je prends du recul puis je me questionne, est-ce que les Microsoft et puis Sun Microsystems, les fabricants d'appliances qui utilisent ces processeurs-là, au final, y étaient-tu au courant puis dans le coup également? Là, c'est une question que je fais juste tirer dans l'univers. Moi, je me la pose cette question-là. On peut pas bâtir un macOS, un Google Android, un Windows serveur, workstation, un Sun, peu importe quoi, sans avoir un certain partage d'informations. Ces ingénieurs-là sont brillants. Ils ont dû se rendre compte de la supercherie à un moment donné. Puis ont-tu attendu d'être au pied du mur puis facilement pointer le doigt sur Intel? Est-ce qu'Intel est le seul coupable dans le coup? Moi, je pose la question.
Oui. C'est sûr que Windows, ben Microsoft et Intel ont eu une histoire d'amour pendant très longtemps, donc ils ont dû être très, très proches. Et cette information-là devait, à mon avis, circuler entre eux autres, mais je ne sais pas s'ils ont été jusqu'à énoncer le fait qu'il y avait un problème. Si on prend l'autre côté, je faisais mention de Sun, et Apple vit à peu près le même genre de situation, c'est-à-dire que Sun et Apple ont des compagnies qui ont développé leur propre microprocesseur pour leur propre plateforme. Donc, ils contrôlent du microprocesseur, le kernel, le OS, puis tout ce qui est entre les deux. Et tous les processeurs que Apple a développés sont vulnérables. Donc, il est à se demander si ils étaient au courant et à quel point ils ont fermé les yeux sur la problématique qu'il y avait avec ça.
Oui, j'aimerais juste nuancer mon propos parce que c'est tout simplement une question que je pose. Ça fait un peu peur de mon opinion, mais bon. Les processeurs en cause, c'est les processeurs CISC, hein? C'est les Complex Instruction Set Control. Les processeurs RISC ne sont pas du tout affectés par ce problème-là. Tu as raison, Nicolas. Merci de me ramener sur Terre. Le fameux processeur RISC qui était largement employé par Apple et puis par Solaris à l'époque, effectivement.
Non, c'est l'inverse. Je disais, ces compagnies-là utilisent des spéculatives, ont développé leur CPU avec ça, leur kernel, leur OS, et sont aussi vulnérables que Intel, Microsoft. Donc, eux autres, en tant qu'à mon avis, sont même plus coupables que Intel, Microsoft, parce qu'ils contrôlaient la chaîne au complet. Parce que Intel et Microsoft ont plaidé le fait qu'ils ne contrôlaient pas la chaîne au complet.
Ah, OK. Je comprends le point de vue que tu veux amener. OK. Mais j'avais cru comprendre que les processeurs RISC, par contre, n'étaient pas affectés par Spectrum Meltdown.
Ben, peut-être pas. Ma connaissance en CPU est limitée, mais je ne sais pas si les processeurs ARM sont considérés comme des processeurs RISC. Les processeurs RISC eux-mêmes, je ne sais pas. Je sais que les processeurs CISC, Intel, ils sont fondamentalement vulnérables. Mais les processeurs ARM développés par Apple, parce qu'Apple a quand même des intérêts dans ce consortium, sont vulnérables. Donc, ils sont comme pris entre les deux. Fait que c'est comme... Je ne sais pas si leurs ingénieurs étaient au courant des problèmes ou des problèmes potentiels que ça allait créer, parce que par rapport à ça, j'ai vu certaines informations qui disaient que dans les derniers correctifs de iOS qui sont sortis, quand la vulnérabilité Spectre a été couverte, parce que Meltdown est couvert depuis décembre chez les iOS, et Spectre n'est que depuis janvier, ils ont jusqu'à 50% de perte de performance sur certains types d'applications iOS. Donc, c'est à se demander si on fermait les yeux juste parce que ça donnait des specs super intéressants au détriment de la sécurité dans ce cas-ci.
Ouais. La défense, pour ajouter à ça, la défense d'Apple dans ce dossier-là, je la trouve un peu, en fait, un peu poche et égocentrique de dire, finalement, c'est l'utilisateur, on laisse le choix à l'utilisateur d'avoir soit une baisse de performance ou de rester vulnérable, ou simplement d'adopter un téléphone plus performant. Donc, encore là, on essaie de pousser dans la gorge les iPhones, les iPads et compagnie à 700 $ et plus.
c'est, hein? C'est une façon de voir les choses, mais je trouve ça malaisant de savoir qu'une compagnie va mettre de l'emphase sur des specs pour réussir à vendre leur téléphone. Et au final, ils ont juste comme triché un peu les chiffres. Parce que probablement qu'ils doivent savoir, un peu à la Volkswagen, qui ont triché les chiffres d'antipollution, comme Intel dans les années 90, ouais. Début 2000, où ils vantaient les mérites des mégahertz, quand dans les faits, ça n'a plus tellement sa place.
Non. Bon, je vais enchaîner toujours dans la foulée Spec Meltdown. Je ferme le petit soap opera. Écoutez, pour Spec, Microsoft a commencé à mettre en ligne justement des patchs de sécurité, des correctifs, des rustines, pour bien parler français. Et puis, ils se sont aperçus, après quelques plaintes malheureusement, que les PC qui étaient équipés de processeurs AMD, lorsqu'ils appliquaient le correctif de sécurité, au démarrage, c'est pas un BSOD, mais au démarrage, une fois que la séquence était terminée et qu'on s'attend justement à faire Control Alt Delete puis rentrer et s'authentifier à l'appareil, c'est un écran bleu qui apparaît avec plus aucun accès, absolument plus rien. Il y a rien qui fonctionne sur l'appareil. Alors là, Microsoft est pris avec une petite patate chaude dans la bouche et puis ils doivent trouver
justement. C'est une petite, une grosse.
Oui, une grosse. Ben oui, oui, c'est une grosse patate, là. Une grosse patate, une patate all dress, là, bien chaude.
Complète, puis, bien. Allez.
Et puis, ça a été. La réponse de Microsoft a été très rapide. C'est qu'ils accusent clairement AMD de mauvaise collaboration. Donc, certains chipsets qui n'étaient pas conformes à la documentation fournie aux concepteurs du système d'exploitation Windows et des déclinaisons correctives, si on veut. Alors, présentement, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec ça, mais si, effectivement, AMD a produit justement la documentation pour détailler la conception, le fonctionnement des processeurs, des chips, des puces, peu importe. Bon, c'est une autre grosse belle triche là-dedans. Là. Malheureusement, c'est Microsoft qui est visé. C'est le bout de la chaîne. C'est le bout de l'utilisation de la machine. C'est le démarrage de la machine.
Ça va exactement ce que tu disais tantôt, la collaboration proche entre Intel ou Microsoft. Dans ce cas-ci, Microsoft, justement, ça peut avoir une collaboration pour aussi rapprocher avec un AMD. Puis dans ce fond que AMD n'a pas divulgué toute sa recette secrète. Puis ça, c'est drôle parce que dans les années 90, début 2000, Microsoft était décrié justement pour ne pas divulguer toutes les API et se servait d'API cachées justement pour avoir des performances supérieures aux applications par rapport aux tiers dans ce qu'ils divulguaient. Donc, ça, il cédait lui-même. Fait que tout cet univers-là de pseudo-collaboration est intéressant, puis ça commence à nuire aux utilisateurs, peut-être voir les changements.
Ben, alors, si parmi nos auditeurs, on a des victimes, Microsoft conseille de faire une restauration système, mais là, une restauration système, là, oublier les outils de restauration lorsque la machine est démarrée puis fonctionnelle, mais c'est de restaurer le système à son état. Ce que je constate, c'est plutôt une installation non destructive pour ramener justement à l'état usine de votre Windows sans justement détruire vos documents et vos paramètres.
Ouais, mais on revient au fait qu'il faut tester ces patchs-là en lab, du moins pour les entreprises qui ont la capacité humaine de faire ce genre de choses, de pouvoir les tester, parce que sinon, ils vont vivre des malheurs puis vont être excessivement dispendieux à redresser.
Ouais. De toute façon, ça commence déjà à coûter cher, toute cette histoire-là.
Ben, tout coûte cher, ça va
être cher. Est-ce que tu vois que ça va être cher? Ouais, on va partir avec cette base-là, tout coûte cher.
Ouais, les TI, c'est terrible.
Ouais. Et écoutez, encore, dernière nouvelle concernant Spectre, celui-là, par exemple. Nvidia qui fait des fantastiques cartes vidéo. S'est penché justement sur a élargi la surface d'attaque pour reproduire justement Spectre et Meltdown sur ses équipements et se sont rendus compte que les GPU Nvidia de certaines cartes graphiques sont vulnérables à Spectre et Meltdown via certains pilotes. Alors, là, ce qu'ils proposent, ils proposent des correctifs pour les cartes. Écoutez bien, c'est les GeForce, les Tesla, les Grid, les NVS puis les Quadro. C'est les modèles qui sont affectés à ce moment-là.
Mais de toute façon, on revient au fait que tout le monde, toutes les compagnies qui se sont basées sur la spéculative vont finir par être vulnérables à ce genre de problème-là tôt ou tard. Puis le problème, c'est qu'on commence justement à avoir une fuite de ce de problème-là vers tous les éléments de contrôle qu'on trouve en usine, par exemple. Les automates mécanisés en usine sont aussi de plus en plus vulnérables à ça parce qu'ils se sont inspirés pour leur chip custom à ça. Aussi, on peut utiliser vulgairement du Intel, puis ils sont aussi vulnérables, fait que ça vient comme... C'est partout.
Oui, c'est je pense qu'on commence... l'étendue du problème commence à se concrétiser davantage, un peu comme les émissions catastrophes où on voit une belle petite planète Terre sur une belle page avec la propagation d'un virus. Là, c'est exactement la même chose qu'on voit. Ça commence à s'étendre. Ça commence à être sérieux. Ça va coûter cher.
Ça va coûter très cher, mais c'est très sérieux parce qu'on est... Tout dépend de ça maintenant. Tout autour de nous est vulnérable à cause d'une mauvaise décision qui a été prise il y a bien longtemps par des compagnies qui voulaient faire beaucoup d'argent.
Là, on parlait de portable, on parlait de téléphone, on parlait de tablette, on parlait de serveur, on parle de certains appliances qu'utilisent ces microprocesseurs-là. Avec ce problème NVIDIA qui est très présent dans les consoles de jeux, là, présentement, les consoles de jeux sont rendues dans l'étendue des problèmes. ARM précise que 5% du 120 milliards de puces livrées depuis 91 risque d'être affecté par Spectre. Faites votre calcul, 120 milliards de puces, 5%, je risque de même pas gagner ça dans toute ma carrière cumulée.
C'est énorme.
C'est énorme. Là, on parle juste d'ARM dans ce dossier-là.
Ouais, mais c'est ça. Mais ça, tous les télés qui utilisent des processeurs qu'on n'a aucune connaissance de ce qu'ils font, tous les espèces de périphériques qu'on a autour de nous qui, maintenant, cachent des CPU, comme tous les automates industriels qui utilisent des CPU, qu'on n'a aucune connaissance, tous les fameux frigidaires intelligents, les lave-vaisselle intelligents qu'on riait parce qu'ils étaient vulnérables à Apache, là, ils vont être vulnérables parce qu'on a un CPU qui est vulnérable en plus. Ça n'a aucune limite, là.
Là, ça veut dire qu'un pirate va démarrer mon lave-vaisselle à mon insu. Donc, quelqu'un va faire ma vaisselle? Nice!
Non, c'est pas. Je pense pas qu'il va aller jusqu'à faire ta vaisselle. Je pense qu'il va tuer ton lave-vaisselle dans un botnet pour nuire à quelqu'un d'autre. C'est un peu moins glorieux et moins agréable aussi, parce que si quelqu'un peut faire le ménage et la lave-vaisselle chez nous, j'apprécierais.
T'achèterais le même modèle, hein?
Oui. Ce geste d'altruisme serait très apprécié. Mais tout ça est terrible. Là. C'est pas, on est partout. Puis je pense que c'est pas la plus grande crise informatique qu'on va connaître. Pas même pire que l'an 2000 à certains égards. Parce que l'an 2000, on avait eu beaucoup de build-up. On se faisait peur. Puis on avait beaucoup d'inquiétudes qui étaient associées à ça. Mais j'ai l'impression qu'au bout du compte, on va vivre un plus grand malheur. Une plus grande difficulté avec cette vulnérabilité-là parce qu'elle est réelle, elle est partout, puis elle va vraiment faire tomber des avions ou vraiment faire cracher des éléments vitaux dans nos vies. Puis dans un épisode précédent, on parlait justement c'est le dernier épisode 2017, on parlait d'équipements de santé qui aidaient les gens à avoir une meilleure vie. Qui dit que ces équipements-là n'ont pas des processeurs ARM dedans ou des processeurs Intel ou AMD qui sont vulnérables à ce genre de choses-là? Fait que déjà, ils sont vulnérables parce que le protocole est déjà faible. Le FDA est obligé d'intervenir pour obliger les compagnies à corriger. Maintenant, est-ce qu'en plus, ils ont une chip vulnérable? Fait que là, c'est doublement problématique. Là. On va se faire avec des choses qui sauvent des vies, mais qui finalement nous met à la merci de méchantes cartes.
Écoute, je trouve ça intéressant que tu parles justement des fameux appareils médicaux, donc les injecteurs automatiques d'insuline, le fameux pacemaker, le défibrillateur interne qu'on a, des neurostimulateurs maintenant qu'on insère dans le corps des gens, qui n'ont pas le choix d'être munis justement d'une pile, d'un processeur, d'un microcode pour être en mesure d'être autonome, fonctionner, puis remplir l'objectif pour lequel il a été conçu. J'ai rencontré dernièrement une firme de professionnels, là, je la nommerai pas. C'est une firme étendue partout sur la planète. Ils ont une belle base de connaissances. Ils ont fait un recensement justement sur quels seront les objectifs 2018. Qu'est-ce qui va être attaqué en 2018 justement par les mauvaises personnes, comme tu le dis si bien? Eh bien, dans le top 10, il a été recensé que les appareils médicaux allaient être une cible d'envergure pour 2018. Est-ce que c'est le début? Est-ce que ça va être une cible ponctuelle? Moi, j'ai l'impression qu'on va commencer à vivre justement des gens vont mourir. Ils prédisent qu'il est fort possible que des gens meurent justement à cause de mauvaises personnes et de mauvaises conceptions, malheureusement.
Ah ben ça, le problème de conception devient de plus en plus important. Puis je pense que les gens ne mesurent pas à quel point maintenant on est rendu dépendant d'équipements technologiques, ce qui fait qu'au bout du compte, on risque beaucoup, même si on a une amélioration, parce que tu l'as mentionné, il y a des gens dans ton entourage assez proches qui bénéficient d'équipements qui leur augmentent leur qualité de vie, qui allègent les problèmes de santé qu'ils ont. Et de ce fait, si ces équipements-là deviennent à risque, la vie et le bien-être de ces individus-là est en jeu. Et c'est très important. Là, c'est très sérieux parce que quand on parle d'équipements vulnérables dans les systèmes pays, en entreprise, on est très système, machin. Mais quand on commence à approcher des vies humaines, c'est plus le même calcul. Et cela doit être prioritaire sur quelconque autre décision. Fait que si on est en train de mettre des vies en jeu sur des problèmes de design et d'économie d'argent et peu importe, on est dans un drôle d'univers, de un. Puis de deux, bien, on est en train de réaliser cette espèce de cauchemar informatique que les œuvres de science-fiction nous présagent déjà depuis plusieurs années. Et on se dirige là-dedans, tête baissée, même si on sait que ça existe. Un peu comme des moutons, puis on passe à l'abattoir, puis on va y aller.
On suit le prophète technologie. Écoute, je ne vais pas me faire l'avocat du diable. Je ne vais pas attirer la poisse sur ces événements, sur les événements malheureux qui pourraient se produire. Mais pensez d'un point de vue légal. Si un pirate, justement, fait un geste qui met justement à mort de personnes. Là, présentement, je ne sais pas s'il y a jurisprudence, je ne sais pas s'il y a des jugements qui ont déjà été rendus là-dessus. De quoi on va parler? Est-ce qu'on va parler d'homicide involontaire? Est-ce qu'on va parler de meurtre au premier ou deuxième degré? Le casse-tête va être encore plus complexe pour nos avocats, justement, pour reconstituer la preuve, justement, pour dégager la vraie circonstance du décès.
Il va y avoir complexité, puis dire fondamentalement, je ne suis pas un avocat, avertissement. Mais ma compréhension du droit criminel, c'est que si un geste pose le décès d'un autre individu, on tombe dans le cadre, au Canada du moins, de la loi criminelle et d'un... Ça, c'est terrible. On est dans des drôles de sphères, mais un peu comme le Wackfest 2016, où Renderman a fait référence à des objets sexuels qui étaient contrôlés à distance et jusqu'au point où on pouvait aller de façon légale mentionner le fait que ça devenait une agression sexuelle sur le fait qu'on agissait sexuellement sur un individu contre son gré. On embarque dans un monde assez weird. Les avocats vont avoir beaucoup de réflexions à avoir comment on interprète nos règles actuelles qui sont, je pense, correctes. Mais comment on les transpose dans le monde cyber, dans lequel on est un peu moins confortable ou un peu moins connaissant?
Ouais, ouais, effectivement, il va y avoir un casse-tête. Puis encore plus d'ouvrages pour les professionnels en sécurité techno, les ingénieurs notamment.
Les ingénieurs
qui comprennent la mécanique du flux de données, du mécanisme, des algorithmes. Ça va prendre une armée justement de compétences qui sont très incompatibles, mais vont devoir collaborer justement pour reconstituer les pièces du puzzle.
Oui, ben, il va y avoir beaucoup de liaisons entre le contexte légal et le contexte technologique, qui à l'heure actuelle, je pense qu'il y a peu d'avocats de notre connaissance qui sont très habiles dans ces deux univers. Pour reciter une conversation qu'on a eue récemment,
oui, effectivement, on a une sommité au Canada en passant. On ne le nommera pas. On ne veut pas le tirer sur la glace. Il est connu. Et puis,
il présente au Hackfest en février ou au Québec Sec en février. Fait que Derico, il est pas. Je pense qu'il n'est pas gêné qu'on dise qu'il existe.
Bon, alors, effectivement, c'est Maître Derico qui est une sommité qui fait des beaux travaux là-dedans, qui rend ça. En passant ses conférences, allez les voir. Cet homme-là parle tellement bien, on touche aux mots qu'il prononce, c'est tangible, ses exemples sont excellents. Un très bon orateur en passant, et puis il est capable de rire de lui-même aussi, fait que ça fait une présentation qui est extrêmement intéressante, beaucoup de contenu, mais léger à la fois, c'est pas lourd à écouter.
Ah, effectivement, très intéressant, là. Tout à fait. Je pense qu'on est mûr pour changer de sujet. On va flipper vers le fait que les chips Intel permettent une vulnérabilité rapide.
Oui, écoutez, je ne sais pas si c'est dans la foulée des divulgations Spectre et Meltdown qu'Intel a commencé à énoncer tous les problèmes connus qu'ils ont sous la couverture, sous le tapis. Mais bon, là, Intel vient d'annoncer qu'ils ont un programme de mise à jour à distance d'équipement Intel. Et puis qu'il y a une faille de sécurité qui vient de divulguer, qui permettrait présentement aux mauvaises personnes, lorsqu'ils ont un accès physique à l'équipement, que ce soit un portable, que ce soit un ordinateur, peu importe, la manipulation la plus rapide, c'est 30 secondes. En 30 secondes, ils sont capables de faire une manipulation qui, lorsque vous êtes authentifié sur la machine, que ce soit à l'intérieur de votre périmètre professionnel au bureau, à la maison, dans votre grotte, peu importe où, une fois que l'appareil a sa connexion Internet, ben dans le Command and Control Center du pirate, ben votre appareil apparaît et puis il y a une prise de contrôle à distance. Alors, bon, un petit peu de sensibilisation. Si l'information qu'on peut sur votre appareil est importante ou si simplement l'appareil vous jugez très important, ben gardez donc un œil dessus quand vous êtes à l'extérieur, quand vous êtes dans l'avion, quand vous êtes dans le train, dans l'autobus, quand vous êtes dans un café Internet et que vous avez besoin d'aller aux toilettes ou chercher une napkin, gardez donc un œil sur votre appareil. C'est 30 secondes que ça prend. Vous allez avoir le lien. Là,
un accès physique, c'est fini. Puis ça le démontre encore plus, d'ailleurs.
Fait que là, c'est via, justement, le programme de mise à jour à distance d'Intel pour les appareils, justement, pour lesquels ils ont inondé une part de marché. Là. C'est vraiment via... Si vous utilisez le système de mise à jour là, à distance d'Intel. Et puis... Là, je rappelle, cette faille-là n'a aucun rapport avec Spectre et Meltdown. C'est une faille à cause d'un problème de conception. Et by the way, le pirate, pour faire sa manipulation, n'a besoin d'aucun mot de passe.
Ah ben, sans accès physique, c'est relativement game over. C'est tout à fait. Quand tu vas aux toilettes, laisse pas ton laptop parce que, en tout cas, en espérant que, en tout cas, anyway. Ne laissez jamais un ordinateur hors de votre contrôle parce que de contrôle, il peut se passer n'importe quoi. De toute façon, ça revient au tout fait. Là, les règles des gens qui vont dans des pays étrangers, le département américain va souvent mentionner si tu vas la méchante Chine, qui est souvent le démon représenté par les Américains, on arrive avec un laptop là-bas, quand on vient ici, ben il faut simplement le jeter parce qu'on n'a aucune confiance de comment l'équipement. Dans quel état il y revient, fait à quel point ils sont capables de s'infiltrer profondément dans ce genre de choses-là. on revient à ce genre de choses-là. On va faire juste une petite parenthèse par rapport à Spectre Meldon parce que c'est ce grand drama. Il y a cette semaine Skyfall et Solace qui sont apparus dans les nouvelles. Pas de façon nécessairement très sérieuse. Il y a beaucoup de gens qui mettent en doute la véracité de l'existence de ces vulnérabilités supplémentaires-là qui soit utilisent Spectre Meldon ou soit c'est des nouvelles vulnérabilités par rapport au CPU qui semblerait aurait des conséquences graves. Ce qui est connu jusqu'à présent, c'est que l'information a été transmise au concepteur de CPU, mais quand les gens s'informent au concepteur de CPU, c'est ceux-ci disent qu'ils n'ont rien reçu. Donc, on n'est pas encore en mesure de savoir si c'est vrai ou pas. C'est sûr qu'il faut être prudent. Si ça utilise Spectre Meldon, ben on est dans la même sphère qu'on connaît déjà. Et de toute façon, on va vous soumettre les liens associés dans les show notes pour que vous puissiez suivre les nouvelles par rapport à ça, mais ça va être intéressant de toute la récupération que les gens font de ça.
Oui, effectivement.
C'est un grand roman savant. Très très fascinant. Dans un monde où on est des gens qui sont plus rationnels pour savoir du roman savant, c'est un peu intéressant. C'est très drôle.
Oui.
Toi, voulais-tu faire un lien avec ton show d'éducation ou tu as déjà précédemment en parlé dans ton...
Non, je vais faire un petit... je vais faire une petite parenthèse. Écoutez, dans le cadre de mon travail, ça m'arrive de rencontrer toutes sortes de gens. On nous sollicite quand on veut nous vendre des services, etc. J'ai eu une rencontre en fait que je redoutais, mais le qui m'a appris beaucoup. Par exemple, moi je suis un auditeur interne, donc je fais la revue des processus, je fais des revues de ci et de ça là pour la compagnie pour laquelle je travaille. Et puis la cybersécurité commence à devenir un enjeu important. Un petit peu d'éducation, ce que j'ai entendu. C'est deux professionnels d'une grande firme qui se penchent justement sur une offre de service. Comment offrir à sa clientèle des rapports d'audit, par exemple, qui permettraient de donner une assurance raisonnable sur une période. Une période, là, on parle d'une fenêtre de temps date A jusqu'à date B, avec divers travaux. Donner une assurance raisonnable, justement, que les activités, appelons ça les activités pour ne pas appeler ça des contrôles, mais que les activités qui sont réalisées de façon périodique peuvent réduire les risques à un niveau jugé raisonnable en matière de cyber-risque. Bon, écoutez, il y a un élément important qui est ressorti dans cette discussion-là. Les fameux cyber-risques, là, les fameux cyber-problèmes. Là, on a entendu parler d'Equifax. On a entendu parler de l'ASEC. On a entendu parler d'Amazon, Deloitte, avec leur boîte Exchange pour les associés. Là, on entend parler d'Intel. Écoutez, faites donc attention quand ces compagnies-là se présentent sur place, qui veulent vous vendre un mandat qui va donner une assurance raisonnable sur une période. Ces problèmes-là, là, c'est des surprises. Comment voulez-vous... Prenez l'exemple d'Equifax. Fax là, qui est tombé au mois de juillet dernier. Là. Puis là, on comprend pas ce qui se passe. Ils ont réussi à installer une brume autour du problème, puis là, les gens regagnent confiance. Mais bon, on est fait de même. Mais imaginez si leur auditeur, un auditeur externe, une firme de professionnels, avait mis un rapport qui dit, hors de tout doute, que les activités en place permettent de réduire les cyber-risques, etc. Pouf! Ils se font... là, on sait qu'ils ne sont pas... Enfin, c'est à cause des deux personnes, mais pouf, ils se font voler des données. Hey, la petite firme de professionnels, là, Equifax, là, a beau perdre la face, là, mais c'est la petite firme... c'est seulement ici, là, je ne dis pas qu'il y a une firme de professionnels qui a mis des rapports, mais imaginez si une firme de professionnels avait osé émettre des rapports, ils se feraient ramasser.
Alors... Ouais. Oui, je suis d'accord. Puis c'est comme une façon de déléguer la responsabilité à quelqu'un d'autre. Là, j'imagine que les compagnies vont adorer de pouvoir trouver une firme tiers, de pouvoir transférer leur responsabilité sur eux autres.
Oui. Mais quand on vous présente, quand on vous sollicite, qu'on vient vous faire des présentations, qu'il y a des papillons, des boules disco dans les coins, là, puis que ça clignote, puis que vous aimez les couleurs pastel, là, posez-vous donc la question, là. Y a-tu des compagnies qui ont déjà fait affaire avec ces gens-là? Sont-tu capables de présenter? Vous savez, la cybersécurité, là, c'est rendu une fonction de gouvernance stratégique au sein des entreprises très exposées qui utilisent énormément le numérique pour son offre de service. C'est une activité qui est en continu, qui est en évolution. 3 mois après avoir bâti des activités pour réduire les risques, il faut les ajuster. Il faut faire une vigie constante. Fait qu'une compagnie qui débarque puis qui dise, bon, ben, écoutez, on rentre le 1er janvier, on sort le 30 juin, puis vous allez avoir un rapport. Ben oui, mais au 1er juillet, il est plus bon, le rapport. Il y a des nouvelles menaces, il y a des nouvelles techniques. On a appliqué des mises à jour sur notre infra. Les mises à jour contiennent des vulnérabilités. Écoutez, faites juste attention. Soyez vigilants.
Tout ça est vivant, mais c'est ça. C'est tout l'aspect de la sécurité, c'est que c'est un environnement vivant qui évolue, qui change avec les gens qui ont évolué le système. Fait qu'un rapport, comme tu dis, même le lendemain peut ne plus être bon parce que les changements ont été faits dans l'organisation. Il y a un paquet de choses. La cyber-vie est vivante. Ça change, ça évolue. C'est une chose en continu. Fait que c'est pas un produit magique ou un consultant magique qui, pendant un court temps, va donner des informations. C'est un rituel, c'est des processus, c'est lent. C'est comme dans l'ensemble des domaines de organisationnels. Puis, je ne sais pas pourquoi en pays, on fait croire aux gens qu'on est magique, parce que dans toutes les autres sphères de l'organisation, c'est long, c'est lent, mais c'est efficace, puis c'est assis sur des choses tangibles et réelles et qui vivent dans le temps.
Oui, tout à fait. Fait qu'en fait, c'est une petite parenthèse que je vous fais. Je vous parle d'une opinion, d'une petite expérience, puis d'information que j'ai eu le temps de mijoter, de travailler. J'ai dormi là-dessus. Et puis, écoutez, ils ont pas tort. Puis ce que j'aime bien, c'est que, ben, en fait, ce que je me rends compte que j'ai un petit peu aussi également cette approche prudente-là. Je t'en ai depuis plusieurs années. J'en fais des mandats. Je fais attention à la portée de mes mandats. C'est quoi l'objectif? C'est quoi la période? C'est quoi le message que je veux faire passer dans mes mandats? Tout ce qui concerne la cybersécurité, je m'en rends compte, puis je suis content d'avoir eu cette conversation-là avec cette firme de professionnels-là, parce qu'ils n'ont pas essayé de vendre un produit d'Audi qui mène justement à un rapport qui donne une assurance raisonnable sur une période, mais plutôt un programme d'activité en continu qui permet justement de faire une vigie, d'être proactif. On est réactif avec les cyber-risques. Il n'y a personne de mature ici là qui va me faire croire qu'on l'a vu venir, on l'a isolé, on l'a testé, on sait. Non, on est réactif, mais il y a des belles façons d'être réactif. C'est pas négatif ce mot-là. Là. Détective préventif, réactif, là, la réaction est très bonne, il faut juste bien prioriser.
Ah, faut s'adapter à ce que c'est. C'est pas magique, là. C'est comme si le cyber devenait magique parce qu'on a donné un nouveau terme à parce que le numérique est rendu.
C'est fou. Ouais, le fameux mot cyber, vous irez lire l'origine de ça. Je pense qu'on l'utilise mal dans le contexte. Là.
Mais énormément bon. Mal. Mais cela bon. Dit, on va switcher vers quelque chose d'un peu, peut-être une nouvelle, un peu positive. Je vous avais mentionné il y a plusieurs mois de ça que les Girl Scouts avaient un programme pour amener les jeunes filles à une meilleure compréhension, une meilleure maîtrise de tout ce qui est justement le cyber. Il y a des actions réelles où ils amènent les jeunes filles à s'exposer au fond aux éléments TI, la résolution de puzzles, la résolution de choses qui les amènent tranquillement à mieux maîtriser et arrêter de les tasser à côté complètement du système pour leur permettre aussi de maîtriser ces choses-là. Pour les filles qui s'intéressent, puis je dirais même mes filles sont de très intéressé par ce genre de choses-là, fait que je les amène à une compréhension et à une maîtrise de ces technologies qui vont faire partie de notre environnement prochainement.
Ah, c'est des bonnes nouvelles, ça, c'est le fun.
c'est très heureux de voir qu'on laisse pas les gens de côté puis qu'on les intègre dans ce qui va être le futur.
Ouais. Cool.
Ça complète notre épisode. Donc, Vincent, un mot de la fin?
Ben, je suis surpris du contenu qu'on a eu. C'est le fun. Puis non, j'ai pas de mot de la fin. J'ai juste un mot pour le prochain épisode. J'ai aucune idée de quoi je vais parler. C'est juste ça que j'ai envie de vous dire.
Ça va être intéressant.
Ouais, par contre, je suis à l'affût. On reste à l'affût. On fait notre vigie. On partage nos trouveurs, nos connaissances. Et puis, on en discute. Puis on fait quelques petits débats une fois de temps en temps. Il n'y a pas eu de débat aujourd'hui, mais les sujets étaient fort intéressants.
Super. Sur ce, over and out.
Salut tout le monde.